Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, ce matin nous parlons sécurité routière après un nouveau drame au Sénégal dans la région de Louga, au nord du pays. 22 personnes sont décédées lundi dans la collision d'un bus de transport public et d'un camion. Une semaine plus tôt, un accident impliquant deux bus à Kaffrine avait fait 42 morts. Des drames qui suscitent émotion et colère au Sénégal et qui nous rappellent que le continent africain enregistre le taux de mortalité routière le plus élevé au monde. Alors certes, pour réduire le nombre d'accidents de la circulation, le gouvernement sénégalais a annoncé 22 mesures comme l'interdiction de rouler la nuit pour les transports en commun ou encore l'interdiction d'importer des pneus d'occasion. Des annonces en tout cas qui ne font pas l'unanimité sur place. La preuve, c'est que plusieurs syndicats des transporteurs sont en grève depuis hier. Alors comment réduire le nombre de morts sur les routes? Quelles dispositions, quelles mesures sont prises dans votre pays? Vous nous appelez, vous réagissez, on vous écoute. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Il y a par exemple Phoebe qui est à Kaolack et qui nous dit un parc automobile vétuste, des routes très étroites, des chauffeurs sans formation, des services d'ordre corrompus, des animaux sur la route et des autorités irresponsables. Voilà les causes de ces accidents mortels et récurrents dans notre cher Sénégal. Bonjour Omar.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, donc également au Sénégal. Est-ce que vous partagez le diagnostic planté à l'instant par cet auditeur dont je lisais le commentaire envoyé sur WhatsApp?
Il y a une partie de vérité dans ce que cet auditeur a dit. Mais le plus important, c'est que le gouvernement du Sénégal doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à ces carnages qui coûtent 700 morts chaque année au peuple sénégalais. En édictant ces 22 mesures pour lutter contre les accidents, le gouvernement doit tout faire pour les faire respecter et faire face aux puissants lobbies des transporteurs qui ne font rien pour arrêter ces accidents et qui se permet dans un confort financier de bafouer toutes les règles de bonne sécurité.
Les transporteurs, par exemple, qui s'opposent à l'interdiction des porte-bagages sur les toits des bus, on sait, et pour ceux qui ont déjà roulé sur le continent africain, bien souvent, les porte-bagages sont bondés. Enfin, ils surchargent les véhicules et ils déséquilibrent les véhicules. Donc, c'est une des causes des accidents. Mais si on retire les porte-bagages sur les toits des bus, c'est finalement pour les transporteurs moins d'argent.
Mais je crois qu'il faut savoir que la plupart de ces véhicules sont des véhicules de transport de marchandises qui ont été transformés en véhicules de transport de personnes. En plus, la vétusté de ce parc, ces véhicules sont très âgés et ne correspondent plus au transport moderne. Donc l'État doit exiger et accompagner les transporteurs à ce qu'ils changent le parc automobile et à ce qu'ils transforment ces véhicules en véhicules de transport moderne.
Mais pour ça, il faut laisser... Omar, pour ça, il faut laisser le temps aux transporteurs de s'adapter aux nouvelles mesures.
Mais malheureusement, les décès ne peuvent plus attendre. Ah, oui. Cette situation ne peut plus continuer. L'État doit tout faire pour exiger à ce que ces véhicules ne puissent pas dépasser les limites de bagages autorisées. Mais sur la route, vous croisez des bus et des véhicules qui surchargent des tonnes et des tonnes sur les véhicules et ça déséquilibre ces véhicules et cause énormément d'accidents.
Oui, c'est vrai, c'est pointé du doigt par de nombreux auditeurs. Sonko nous dit le bus accidenté lundi avait une capacité de 32 places. Pourtant, il y avait 47 passagers à bord, dont 15 de trop. Ces bus sont bridés à 90 km/h, mais les transporteurs font sauter ce verrou pour rouler à des vitesses inacceptables. Et de poursuivre le commentaire, le poids des bagages sur le toit déséquilibre les véhicules. Le comble est que les trajets se font la nuit où la visibilité et la vigilance sont réduites. D'où d'ailleurs la décision d'interdire les véhicules de transport collectif interurbain de circuler entre 23h et 5h du matin. Omar, merci infiniment d'avoir été avec nous. Bonjour Alphonse.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes également au Sénégal. Je précise qu'on ne va pas prendre que des Sénégalais ce matin parce qu'on nous appelle d'un peu partout. Mais voilà, j'avais envie de commencer avec des auditeurs sénégalais puisque l'actualité malheureuse nous vient du Sénégal. Alphonse, à Fatick, le problème, vous dites que c'est de faire respecter toutes les mesures qui sont prises en charge. qui sont prises par le gouvernement.
Si on prend les 22 mesures, si on les respectait, si on les appliquait rigoureusement, on allait, je ne dirais pas éviter, mais diminuer le maximum possible les accidents.
Attendez, Alphonse, excusez-moi, là, le réseau n'est pas bon. Il y a du vent, vous êtes en train de vous déplacer. On va essayer de régler ça un peu hors antenne parce que j'ai du mal à vous comprendre. Donc, surtout, ne raccrochez pas. Bonjour, Abdoulaye.
Bonjour, Monsieur Wan, et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Comment limiter le nombre de morts sur les routes?
Bon, ici en Guinée, le problème d'insécurité routière se pose avec acuité vraiment. Et nous sommes vraiment fatigués de la tuerie en longueur de journée. À tout moment, la route tue nos pauvres populations et vraiment on est fatigués de cela.
Mais la faute à qui?
La faute non seulement au gouvernement, mais aussi aux chauffeurs. Parce que vous allez voir un chauffeur qui va ici faire la surcharge. Il va surcharger le camion et en plus, il va conduire à un excès de vitesse. Là où il ne doit pas, n'est-ce pas, conduire à 80-90, il va aller au-delà de ça. Et en cas de problème, vraiment, ça devient grave. Il n'y a pas plus tard que le mois de novembre dernier, sur la National Conakry-Kindia, il y a eu un grave accident qui a coûté la vie à 22 personnes. Mmh. Et ces 22 personnes, malheureusement, c'était des étudiants. Mmh. Voyez-vous cela?
Excusez-moi, Abdoulaye, est-ce que le responsable de l'accident a été sanctionné? Je vous pose la question parce que j'ai sous les yeux le commentaire d'Alpha qui nous dit « En Guinée, un chauffeur vient d'être condamné à 5 ans de prison avec une amende de 10 millions de francs guinéens pour avoir été responsable d'un accident sur la route nationale qui a fait plus de 25 morts. Il faut des sanctions sévères », nous dit Alpha.
Vraiment, effectivement, c'est ça. La sanction, ça vient de commencer. Et c'est ça qu'on doit continuer. Cela devait avoir lieu depuis très longtemps pour mettre fin à ce fléau qui ne fait que tuer nos pauvres populations. Vraiment, on en a marre, M. Wan. Mmh.
Abdoulaye, ne raccrochez pas, vous êtes à Conakry. Je vous présente Paul Aimé. Il est au Togo, à Yégué exactement, dans le centre-ouest du pays. Bonjour Paul Aimé.
Oui, bonjour Wan, bonjour à tous.
Vous disiez au Standard, prendre la route est une peur constante.
Oui, effectivement, les accidents au Togo, c'est très, très récurrent. Et l'état de nos routes sont très mauvais, c'est-à-dire les routes sont d'une mauvaise qualité, à savoir les nids de poules. Et il y a des routes bitumées en 1982 plutôt, qui jusqu'à présent ne sont plus reconstruites, ne sont plus rétabli. Donc, à certaines parties, on verra même les goudrons qu'on ne peut plus revoir. On ne saura même plus qu'il y a...
Le goudron a disparu. Oui, le goudron a disparu. Paul Aimé, si, je lis la petite fiche qui me vient du Standard. Vous avez une moto.
Effectivement, j'ai une moto. Et tout récemment, j'ai failli être ramassé par un conducteur et qui a perdu le contrôle de son guidon. Donc, surtout au Togo, et en matière de circulation, il y a un facteur qui me fait chose. Parce que les usagers, c'est-à-dire les conducteurs de taxi-moto, surchargent les véhicules, ouais. leur taxi, au point que le conducteur même ne trouve plus de place à sur son siège. Et quand il y a moindre erreur, il perd le contrôle. Donc, c'est un facteur très, très récurrent au Togo. Il faudrait que l'État togolais mette une loi en place pour exiger à tous les usagers de la route d'avoir un permis. Puisque
oui. J'entends bien, mais beaucoup vous diront qu'il ne suffit pas de voter des lois. Encore faut-il qu'elles soient respectées et appliquées. Merci Paul Aimé de ce témoignage. On a retrouvé Alphonse Afatik. Bonjour Alphonse, rebonjour.
Bonjour Juan. Je disais au Standard qu'il faut qu'on respecte les mesures et que l'État les applique rigoureusement. Si on prend l'exemple du Sénégal, il y a la 9e mesure
qui dit qu'il ne faut pas transformer les automobiles de transport. Et au Sénégal, ce qu'on constate, est qu'à chaque fois, dès qu'un bus arrive au pays, un bus qui devrait mettre 50 personnes, on transforme jusqu'à avoir 80 places. On met des porte-bagages en haut. Moi, j'ai eu la chance de voyager de Dakar à Bakel, plus de 500 km, mais c'est évidemment des risques énormes, Mourouane. Et le problème majeur au Sénégal, c'est la faiblesse de l'État devant les syndicats de transport. À chaque fois qu'il y a des mesures, ils menacent comme quoi ils vont aller en grève et l'État d'habitude est obligé de reculer. Ouais. Et c'est un problème récurrent.
Mais les transporteurs, vous savez bien que les transporteurs en grève, c'est un pays qui est bloqué.
Oui, c'est un pays qui est bloqué, d'où l'État maintenant doit chercher. Pourquoi pas ne pas développer les transporteurs transport en masse avec le TER.
Oui, transport ou le train, effectivement, c'est ce que disait un auditeur, c'est Thiam qui nous écrit de Mbaké, il nous dit « La seule solution est de réhabiliter les chemins de fer au Sénégal. Voilà un pays où pour aller d'une région à une autre, il n'y a que la route. »
Oui, évidemment, il a parfaitement raison. Avec le BRT qui viendra, le TER, si on pouvait le mettre de Dakar à Bakel sur toutes les régions du Sénégal, là, les gens ne vont plus prendre les bus, on va prendre le TER.
Parce qu'il
y a plus de confort là-bas, il y a moins de pollution, et voilà, au Sénégal, c'est ça notre problème.
Oui.
L'État est appelé à appliquer rigoureusement ses règles, ses mesures.
Je vous lis le commentaire d'Amidou, il est de la région de Kédougou, il travaille pour une société de transport interurbain, il donne son nom SAU Transport. Auparavant, j'étais convoyeur de bus dans cette société. Les responsabilités, dit-il, sont partagées, mais les contrôleurs routiers, policiers, gendarmes, douaniers ont la plus grande part de responsabilité. Imaginez qu'un bus peut arriver à plus de 90 km à l'heure au poste de contrôle, avec plus de 60 passagers à bord et surtout un étalage de bagages qui fait trois fois le niveau normal. Pour passer le poste, eh bien, il suffit de tendre un billet de 2000 francs au contrôleur. Alphonse, ça vous surprend ?
Non, en fait, toi. C'est sur les rues sénégalaises, c'est comme ça. Hein. Vous prenez la route, arrivez à surtout nos hommes détenus. En 2 minutes, c'est beaucoup. En 1000 francs, on te laisse passer. Quelle que soit l'infraction, on vous laisse passer avec 1000 francs. C'est déplorable dans ce. Et c'est eux qui doivent appliquer la loi, ce qui est grave dans tout ça.
Merci à vous de ce témoignage, Alphonse. Bonne journée à Fatick et merci évidemment à tous ceux qui nous écrivent sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook et surtout sur WhatsApp, le WhatsApp d'appel sur l'actualité. Bonjour Ambroise.
Oui, bonjour Rowan.
La route entre Yaoundé et Douala est appelée l'axe de la mort, c'est ce que vous disiez.
Oui, en fait, on l'a baptisé l'axe de la mort. C'est la première. Ça s'appelle l'axe lourd. Je ne sais pas s'il en existe beaucoup comme ça dans le monde, mais le nôtre s'appelle axe lourd et qu'on a baptisé axe de la mort. Parce qu'il ne se produit pas, se passe pas de semaine sans qu'il y ait des morts sur cette voie-là. Les transporteurs, le comportement des transporteurs qui est vraiment à déplorer. J'écoutais une émission d'Alain Foucault récemment, justement sur ce problème voilà. Et le représentant des transporteurs camerounais était en train de dire des choses et Alain Foucault a tenté de le remettre sur les rails. Bon, il est resté mordicus sur sa position. Mais en fait, vous avez le comportement des chauffeurs qui roulent à tout berzingue, ne respectant pas le code de la route. Et le comportement des agents publics qui sont sur la voie. Il suffit d'avoir un dossier avec un bon billet dedans et vous passez.
Oui. Voilà. Oui, mais c'est ce qui revient d'ailleurs très très souvent dans vos témoignages. Hein. Vous êtes nombreux à pointer du doigt la corruption. Mais bon, en même temps, la corruption, il y a le corrompu et celui qui corrompt. Donc, vous voyez, tout le monde a sa part de responsabilité, Ambroise.
Oui, mais
celui qui est dans la voiture et celui qui est censé faire le contrôle.
Alors, je veux vous dire que même le passager qui est à l'intérieur du car est presque de mèche avec le conducteur, donc le chauffeur. Parce qu'il suffit que le chauffeur essaye d'être en règle, qu'on commence à traîner les pieds, le passager commence à dire « vous nous perdez le temps ». Et il s'adresse au chauffeur. Il ne s'adresse pas au policier qui est en train de tourner tout autour de du car ou du mini-car, mais c'est plutôt au chauffeur qui s'adresse. Ce qui est tout à fait incompréhensible. Ouais. Moi, j'ai pris une fois le car Yaoundé-Douala, il était 19h. Juste après ma tombe, nous étions sur une montée et le chauffeur a voulu franchir la ligne blanche continue. Nous voyons des phares d'une voiture qui arrivait en face. Je lui ai dit de ne pas recommencer ça. J'ai été prise à partie par certains passagers, mais il y a au moins un qui lui a dit ce que dit monsieur. Il dit vrai, ouais. Ne recommencez pas.
Oui, il ne faut pas, c'est le code de la route, hein, il ne faut pas franchir la ligne blanche. Ambroise, merci infiniment de ce témoignage. Je vous lis le commentaire d'un auditeur de Yaoundé, Frédéric, qui nous dit il faut des mesures toutes simples. Le port obligatoire du casque pour les motocyclistes, la ceinture de sécurité pour les automobilistes, ça a l'air tout simple, mais visiblement, ce n'est pas respecté à Yaoundé. Et également, j'ai vu à peu près la même réaction d'un auditeur de Guinée. Bonjour Abdoulaye. Abdoulaye, êtes-vous là?
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio mondiale.
Vous êtes à Tawa, au Niger. Ah bah tiens, justement, vous aussi, vous parlez du port obligatoire de la ceinture.
Effectivement, port obligatoire. Mais je suis à Conakry, moi.
Ah, vous êtes à Conakry? Oh bon, je ne sais pas, j'ai Abdoulaye. Alors, vous n'êtes pas Abdoulaye de Tawa, alors. Vous êtes qui, alors? Allô, allô?
C'est bien, Abdoulaye. Oui, allô?
Oui, ça vous fait rire, mais moi aussi. Qui êtes-vous? Et ça fait rire, Caroline Paré, qui s'installe dans ce studio. Donnez-moi votre prénom.
Je m'appelle Abdoulaye.
Oui.
Et je vous appelle de Tawa. C'est le Abdoulaye de Tawa maintenant.
Ah, c'est le Abdoulaye de Tawa. Bon, je ne comprends plus rien. Tout à l'heure, on avait donc un Abdoulaye de Guinée. Ah, on a appuyé sur le mauvais bouton, me dit la technique. Abdoulaye de Tawa, on vous écoute.
Oui, effectivement. Et par rapport à ce que vous avez dit, je tiens à relever que beaucoup de conducteurs de motocyclistes ne portent pas les casques. Ça, c'est une vérité absolue. Même si au niveau de la capitale de notre pays, à Niamey, le port du casque est obligatoire. Quand vous vous faites prendre sur une moto sans casque, là, vous risquez une amende. Et si vous exagérez avec une autre amende, vous risquez même d'être confisqué et d'être confisqué de votre moto. Qui est transporté au niveau de la fourrière. Maintenant, par rapport à la ceinture de sécurité, je tenais à vous expliquer aussi que la mise en œuvre de cette situation est différente d'une ville à une autre ville.
Ah bon?
Oui, parce que quand vous venez à Niamey, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité quand vous voulez dans la ville de Niamey. Ça, c'est une obligation. Il y a des mesures qui ont été prises par la mairie de la ville et qui font obligation au chauffeur et à celui qui est assis juste à côté du chauffeur de porter sa ceinture de sécurité, que ce soit dans son véhicule personnel ou bien dans un véhicule de transport en commun.
Et donc ?
Maintenant, et quand vous sortez de la ville de Niamey, au fur et à mesure que vous vous retrouvez dans une région, cette obligation s'extompe. Vous pouvez rouler sans problème et personne ne va vous arrêter pour vous obliger à porter une ceinture et personne ne va vous faire une amende parce que vous ne portez pas de ceinture de sécurité, contrairement à Niamey.
Ah oui, effectivement. Donc, deux poids, deux mesures, en fonction que l'on soit dans la capitale ou en région. Paul est à Dolisie, il nous a contactés. Il nous dit à Dolisie, c'est au Congo-Brazzaville. Hein. Ici, personne ne respecte le code de la route. D'ailleurs, il y a très peu de panneaux de signalisation, donc chacun roule à la vitesse qu'il veut. Bah voilà. Et j'ai échappé plusieurs fois au pire sur ma moto, nous dit cet auditeur. Je pourrais passer la matinée hein, à vous lire des commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Il y a Ibrahim qui nous dit « Parler de l'état des routes, c'est un faux fuyant au Sénégal. Elles ont été améliorées ces dernières années. Ce qu'il faut mettre en erzègue, c'est l'attitude irresponsable des conducteurs et le laxisme des agents de la sécurité routière. Visiblement, c'est vrai que les agents de la sécurité routière ont tout au long de cette émission été pointés du doigt. Merci à tous de votre fidélité, de votre intérêt. Vous continuez évidemment à écouter RFI dans un instant Caroline Paré et on sera de retour demain. Bonne journée.
Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Et elle est déjà là, Caroline Paré, bonjour.
Bonjour, Juan.
À suivre, juste après le journal, Priorité Santé, vous nous parlez de la fatigue chronique.
Oui, on peut parler de la fatigue liée au manque de sommeil, mais pas seulement, hein, parce que quand la sensation d'épuisement s'installe, malgré le repos, bien la fatigue devient un véritable signal d'alarme, fatigue mentale, fatigue physique, carence, dépression, asthénie comme symptômes. Alors c'est vraiment très important de comprendre pourquoi on identifie ces causes de fatigue. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il y a une infection? On en parle tout à l'heure avec nos invités.